Chapitre 54. La bête de sang percuta l'entrée défendue par les colonnes d'Auric. Au vacarme qui atteignit ses oreilles, Richard crut que le tunnel entier allait exploser. La créature noire, en tout cas, s'était désintégrée en des milliers d'éclats minuscules. Alors qu'une lumière violette envahissait le passage, des cris de rage et de douleur s'y répercutèrent. Devant l'entrée protégée par un champ de force tueur, des volutes de brume noire rappelaient qu'un monstre quasiment invincible avait tenté d'ajouter le sourcier de vérité sur la liste de ses victimes. Les éclats de ténèbres tombèrent lentement vers le sol. On eût dit une pluie de météorites miniatures. Une comparaison des plus judicieuses puisque les fragments s'embrasaient et se désintégraient avant de toucher le sol. À part le souffle rauque de Nietzsche et de Richard, on n'entendait plus rien. La bête s'en était allée, au moins pour l'instant. Le sourcier lâcha la main de sa compagne. Avec un bel ensemble, les deux jeunes gens se laissèrent glisser sur le sol, s'assirent et s'adossèrent au mur couleur d'argent.
« Tu cherchais un de ces champs de force, c'est ça ?»
demanda Nietzsche. « Oui. » puisque la magie de Zed, de Nathan et d'Anna était impuissante. En revanche, tes sortilèges semblaient avoir un effet, limité certes, mais c'était déjà ça. J'ai supposé qu'une certaine variété de champs de force pouvait venir à bout de la bête, en tout cas sous la forme, si j'ose dire, qu'elle avait adoptée aujourd'hui. Je savais que les sorciers de l'ancien temps avaient prévu de neutraliser toutes les formes de magie étrangères à la forteresse. La bête de sang fut créée à cette époque, me suis-je souvenu. Jagang a trouvé l'idée en consultant d'antiques grimoires. En toute logique, il devait exister un champ de force prévu pour les monstres comme le nôtre. Ces défenses-là, ai-je déduit, combinaient sans doute les deux facettes de la magie. En conséquence, pour les traverser, il faut détenir au moins une étincelle de pouvoir soustractif. Comme c'est le cas de nos ennemis, j'ai supposé que les champs de force étaient capables d'analyser la nature et les intentions des gens qui tentent de les traverser. Au fond, les défenses moins radicales sont peut-être des postes de contrôle. On y collecte des informations qui sont transmises au champ de force tueur. Bref, j'ai parié que cette défense-là nous reconnaîtrait, mais qu'elle ne laisserait pas passer la bête. Pensive, Nietzsche écarta une mèche de cheveux de son front.
Personne ne sait grand-chose sur les sorciers de l'époque, mais il semble normal qu'une antique menace soit vulnérable à d'antiques défenses. D'ailleurs, les champs de force de ce type te protégeraient peut-être automatiquement si la bête se remontrait.
C'est probable, mais je devrais me terrer ici comme une taupe.
Nietzsche regarda autour d'elle.
Tu sais où nous sommes ?
Demanda-t-elle.
Absolument pas. Il serait temps de le découvrir, non ?
Le sourcier et la magicienne se relevèrent péniblement, marchèrent jusqu'au bout du couloir, en sortirent, et débouchèrent dans une pièce très simple, au mur en pierre revêtu d'un plâtre déjà bien effrité. Longue d'une quinzaine de pieds et un peu moins large que ça, la salle contenait une grande bibliothèque au rayonnage rempli de livres. Bien qu'il y eût des ouvrages, il ne s'agissait pas d'une bibliothèque. Pour commencer, cet endroit était trop petit. Ensuite, sa totale inélégance ne collait pas avec un sanctuaire de la culture. Une table et une chaise complétaient l'ameublement minimaliste de cette étrange salle. Une bougie posée sur la table éclairait l'entrée d'un couloir obscur, très similaire à celui que Richard et Nietzsche avaient emprunté en venant. Le sourcier approcha, jeta un coup d'œil, et ne fut pas surpris de découvrir des murs argentés et, au bout du corridor, la lumière rouge d'un champ de force. Contrairement à bien des endroits défendus par des sortilèges, il n'était pas possible ici de contourner les défenses pour atteindre la pièce. Un pareil dispositif de sécurité trahissait la grande importance des ouvrages entreposés dans ce refuge secret.
« Tu as vu la couche de poussière ?»
lança Nietzsche.
« On dirait que le ménage n'a plus été fait depuis des millénaires. »
La magicienne avait raison. Cette salle n'avait plus reçu de visiteurs depuis des lustres.
Ce qui signifiait... Eh bien, les implications étaient étourdissantes.
« C'est exactement ça, »
confirma Richard.
Plus personne n'est venu depuis des milliers d'années.
Sans blague?
Il n'y a que deux voies d'accès, toutes protégées par des champs de force tueurs. Pour entrer, il faut maîtriser la magie soustractive. Zed lui-même ne pourrait pas passer.
Il se ferait carboniser. Richard, j'ai été confronté à des champs de force toute ma vie. Ceux-là sont mortels pour quiconque n'a pas le pouvoir requis. Sans ton aide, je me demande même si je serais passé.
La tête inclinée pour mieux déchiffrer les titres, Richard longea lentement la bibliothèque. Certains volumes n'avaient pas de titre sur le dos, d'autres étaient rédigés dans des langues inconnues du sourcier. Enfin, quelques-uns pouvaient tout à fait être des journaux intimes. Deux volumes intriguèrent Richard. Le premier était intitulé « Gegendraus, contre-mesure, en haut d'Aran ». Le second, également assez mince, avait un titre bizarre. Théorie ordénique. Richard ne connaissait pas ce mot et il comprit très vite que ça n'avait rien d'étonnant. C'était sans doute un adjectif inspiré du nom Orden, le créateur des boîtes. Y avait-il vraiment un lien ?
Richard, viens un peu voir,
lança Nietzsche. Le sourcier devina qu'elle avait dû traverser le deuxième champ de force. D'abord alarmé, il accourut et fut profondément soulagé que son ami n'ait rien. Nietzsche était une magicienne expérimentée. Après avoir traversé la première défense, elle avait sûrement analysé le danger et recensé les contre-mesures, justement, qui s'imposaient. Il était également possible que le premier champ de force ait communiqué au second que cette magicienne-là avait le droit de passer. Quand il franchit la défense magique, Richard éprouva de nouveau la sensation de pression. Puis il se retrouva dans un petit espace carré entouré d'un garde-fou. Décidément, les sorciers avaient opté pour la symétrie dans ce cas précis. Connaissant leur goût pour la fantaisie, c'était plutôt étonnant. Tournant le dos aux sourciers, Nietzsche se tenait devant une lourde porte de fer grande ouverte. Richard vint s'appuyer au garde-fou qui entourait la plateforme. Se penchant un peu, il découvrait que Nietzsche et lui se tenaient sur un des paliers de l'escalier extérieur d'une grande tour qui s'élevait encore sur des centaines de pieds. Les paliers, disposés à des intervalles irréguliers, correspondaient tous à une entrée de la tour. Une odeur de pourri planait dans l'air. Au pied de la tour, pas très loin vers le bas, Richard repéra une passerelle en fer qui semblait contourner la bâtisse. « Je connais cet endroit, » souffla-t-il.
« Vraiment ? » ?»«
Oui. Viens, descendons. » Arrivé en bas, Richard suivit la passerelle jusqu'à une grande plateforme. Ici, une porte donnait naguère accès à la tour, mais une explosion l'avait arrachée à ses gonds et l'ouverture faisait à présent deux bonnes fois sa taille d'origine. Là où aurait dû se trouver l'encadrement de la porte, la pierre avait fondu et des traces noires zébraient la partie encore debout de la façade. L'explosion avait eu lieu à l'intérieur, c'était facile à voir pour un œil exercé, et encore plus pour Richard qui avait participé à tous ces événements.
« Qu'est-il arrivé ici ?»
demanda Nietzsche ébahi. « La salle que tu vois a été scellée au moment où l'ancien monde et le nouveau se séparaient. Quand j'ai détruit la barrière, la porte a sauté comme un bouchon de vin pétillant. »
« Que protégeait-elle ?»«
Le puits de la Slif. »
« La créature qui transporte les gens sous terre dans du vif argent ? Celle dont tu m'as parlé un soir ?»«
C'est ça, oui, » confirma Richard en approchant de l'ouverture déchiquetée de l'antique salle. La pièce était ronde et large d'une soixantaine de pas. À l'intérieur, les murs étaient noircis par des éclairs magiques, prouvant qu'un terrible combat s'était déroulé en ces lieux. Au centre de la pièce, un muret courait autour de ce qui devait être un trou d'eau. « Le puits de la Slif, » comprit Nietzsche. Sous la voûte qui disparaissait presque dans les ténèbres, les murs n'étaient pas percés de fenêtres. La porte pulvérisée restait la seule entrée accessible, sans préjuger de l'existence d'un éventuel réseau de tunnels. Une table et un siège attendaient à bonne distance du puits de la Slif. Au tout début de son aventure, Richard avait découvert les ossements de Colo, le sorcier qui s'était occupé de sceller la pièce à l'époque des Grandes Guerres. Piégé au mauvais moment dans la salle, le pauvre gardien avait failli mourir d'ennui. Pour passer le temps, il avait recommencé à écrire son journal intime. Aujourd'hui, l'ouvrage était entre les mains de Burdine, chargé par son seigneur de traduire le texte. Bien que le travail fût toujours en cours, ce récit avait déjà fourni de précieuses informations au sourcier, qui le tenait pour l'un des livres les plus importants du monde. Nietzsche approcha du puits, leva son globe lumineux, se pencha et regarda un long moment le conduit vertical qui semblait ne pas avoir de fond. Un pareil à pic donnait le frisson même lorsqu'on ne craignait pas les hauteurs.
« Tu as endormi la Sleaf, m'as-tu dit ?»«
Oui, avec ses objets. » Richard tapa doucement l'un contre l'autre les serre-poignets rembourrés qui mettaient en valeur les muscles saillants de ses avant-bras. « Quand elle dort, à ce qu'il paraît, elle retrouve son âme. J'ignore si c'est vrai, mais du coup, elle adore s'endormir. »«
Et tu peux la réveiller avec tes serre-poignets ?»«
Oui, mais en utilisant mon don. Comme quand je l'endors. » Et je n'ai guère envie de jouer les sorciers ces derniers temps. Surtout dans cette salle isolée à quelques pas de la Sleaf et en sachant que la bête de sang est attirée par les sortilèges que je lance.
Bien raisonné, je l'avoue. Richard, tu sais si la bête pourrait te suivre dans la Sleaf?
Le sourcier réfléchit quelques secondes. Je n'ai aucune certitude, mais c'est possible, je crois. De toute façon, la bête apparaît chaque fois que j'invoque mon don, donc elle n'a sûrement pas besoin de la Sleaf pour me retrouver. D'après ce que j'ai appris grâce à toi, puis à Shota, ce monstre est capable de sillonner le royaume des morts et d'en sortir à sa guise.
Revenons à la Sleaf, si tu veux bien. À part toi, qui peut recourir à ses services?
Ceux qui ont au moins une étincelle des deux magies. Pendant les grandes guerres, ça posait un problème, et c'est pour ça qu'un sorcier montait en permanence la garde dans la salle de la Sleaf. C'est aussi pour cette raison qu'on l'a scellé, afin que des ennemis ne puissent pas s'introduire dans la forteresse. Heureusement, très peu de gens ont le double don, si j'ose dire, et eux seuls peuvent voyager dans la Sleaf. Kara s'est emparée du pouvoir de plusieurs sorciers additifs, et elle a un jour fait de même avec un adversaire qui n'était pas entièrement humain et possédait, selon Kalan, une étincelle de magie soustractive. Du coup, notre ami en rouge peut survivre dans le vif argent. Le pouvoir des inquisitrices étant très ancien, il comporte quelques éléments soustractifs. En conséquence, Kalan aussi peut voyager dans la Sleaf. À part les sœurs de l'obscurité et moi, je ne connais personne qui en soit capable. Une de mes anciennes formatrices, Mérissa, m'avait poursuivi dans le vif argent. Tu le pourrais également. Il y a peu d'intrus potentiels, comme tu le vois, mais les sœurs de l'obscurité de Jagang restent une menace permanente.
Et qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont pas le double don, comme tu dis? Je pense par exemple à Zed qui contrôle uniquement la magie additive.
Richard voulut poser la main sur le pommeau de son épée. Hélas, l'arme n'était plus là. Il avait la nausée chaque fois qu'il se rappelait l'avoir donnée à Shota, ou plutôt à Samuel. Il chassa de son esprit cette idée angoissante. Eh bien, la Sleaf permet de voyager très vite. Mais le transfert n'est quand même pas instantané. J'ignore si la durée dépend de la distance, mais il faut toujours quelques heures pour arriver à destination. La Sleaf est une sorte de vif argent vivant. Pour survivre pendant le trajet, il faut être capable de respirer cette étrange matière. Le voyageur l'inhale et elle le maintient en vie. S'il n'a pas le double don, il meurt. C'est aussi simple que ça. Un moment, Richard envisagea d'aller réveiller la Sleaf pour savoir si elle se souvenait de Kalan. Mais pour fabriquer cette créature, les antiques sorciers avaient choisi une courtisane de haut vol, impliquée dans des intrigues politiques qui avaient fini par lui coûter la vie. La Sleaf conservait quelques caractéristiques de cette femme. En particulier, elle ne révélait jamais l'identité de ses clients.
Nous devrions rejoindre Zed et l'informer que nous allons bien, dit soudain Richard, revenant au présent. Kara doit être dans tous ses états.
Richard,
appela Nietzsche alors que son ami s'était détourné et s'éloignait déjà.
« Oui ?»«
Que vas-tu faire au sujet de Nathan et d'Anna ?»
Le sourcier se retourna.
« Rien du tout, pourquoi cette question ?»«
Je faisais allusion aux choses qu'ils t'ont dites. Tu sais, la guerre, ta présence à la tête de l'armée. Le moment décisif est imminent, tu le sais très bien. Vas-tu continuer à poursuivre des chimères ?» alors que les espoirs et les rêves des hommes libres sont menacés de destruction ?
Richard foudroya Nietzsche du regard. Très déterminée, elle ne détourna pas la tête.
Tu as dit toi-même que le cadavre ne prouvait rien.
C'est vrai, mais il nous a au moins appris une chose. Tu te trompais au sujet de ce que tu trouverais ici. Ouvrir la tombe est loin d'avoir confirmé ce que tu pensais, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, une question s'impose. Pourquoi cette erreur de ta part? Si tu as quand même raison, il n'y a qu'une réponse. Parce que quelqu'un a enterré le cercueil afin que tu le trouves. Mais pourquoi agir ainsi? Du temps a passé depuis l'exhumation, et tu n'as pas avancé d'un pouce. Il serait peut-être temps d'élargir ta réflexion. Lorsqu'on considère les choses globalement, les prophéties exposent l'enjeu on ne peut plus clairement. Tu aimes Callan, c'est un fait. Mais même si elle existait, sa vie devrait-elle peser plus lourd que celle de tous tes alliés?
Richard approcha du puits et posa une main sur le muret. La dernière fois qu'il avait voyagé dans la Slif, c'était avec Callan, pour aller se marier au village du peuple d'Adobe.
Je dois trouver ma femme et je ne serai pas le pantin des prophéties.
Très bien. Par où vas-tu continuer? Tu as vu Shota et Zed qui n'ont rien pu te dire au sujet de ton épouse ou de cette chaîne de flammes. Que te reste-t-il à tenter? N'est-ce pas le moment de regarder la réalité en face?
Richard s'essuya le front du dos de la main. Même si l'admettre le révulsait, il redoutait que Nietzsche ait raison. Comment allait-il continuer sa quête? Il n'avait plus de plan, c'était exact, et sillonner le monde au hasard ne l'aiderait sûrement pas à retrouver Callan. Dans un silence presque total, Richard se pencha et constata que le puits de la Slif était vide. La créature dormait quelque part, heureuse d'être avec son âme. Callan était-elle encore vivante? Richard frissonna comme toujours lorsqu'il se posait cette question, avec en arrière-plan une interrogation plus terrifiante encore. Callan avait-elle jamais existé? Vivre dans le doute, y compris sur soi-même, finissait par être accablant. Surtout quand on se sentait déjà coupable. Ces gens croyaient-ils qu'il était facile pour lui de tourner le dos à sa mission? Chaque jour, il pensait aux innocents dont la vie était menacée par les soudards de l'ordre. Ces malheureux aussi s'inquiétaient pour ceux qu'ils aimaient. Avait-il le droit de se désintéresser d'eux et de poursuivre jusqu'à son dernier souffle le fantôme de Callan?
Richard, dit Nietzsche, je sais qu'il est dur de tourner la page et de passer à autre chose.
Le sourcier ne put soutenir le regard de son ami.
Je ne peux pas faire ça, Nietzsche. Je sais que tous mes amis ont du mal à comprendre ma position et je ne leur en veux pas. Si une maladie l'avait emporté, j'aurais été désespéré, mais j'aurais fini par m'intéresser de nouveau à la vie. Là, c'est différent. Je sens qu'elle est en train de se noyer et j'entends ses appels au secours. Personne d'autre ne les capte et... Richard, je... Tu crois que je me fiche de tous ces innocents en danger? Bien sûr que non. L'angoisse m'empêche de dormir. Et je n'ai pas seulement peur pour Callan. Sais-tu à quel point je suis déchiré? Comment réagirais-tu si tu devais choisir d'abandonner l'être que tu aimes ou de décevoir tous tes amis? La nuit, je me réveille en sursaut et je vois danser des visages devant mes yeux. Celui de Callan, bien sûr, mais aussi ceux de tous les gens qui souffriront si Jagang l'emporte. Quand on me dit que le peuple a besoin de moi, ça me déchire le cœur. D'abord parce que je voudrais aider les gens, bien entendu, mais aussi parce qu'ils croient qu'un seul homme peut faire la différence dans un conflit qui en implique des millions. De quel droit font-ils peser une telle responsabilité sur mes épaules?
Nietzsche posa la main sur le bras de Richard et le massa doucement. Un geste rassurant et tendre.
Tu sais que je ne voudrais pour rien au monde que tu agisses contre ce que tu penses, juste. J'aurais pu te laisser croire que ce cercueil était une preuve suffisante, mais je ne l'ai pas fait, alors qu'elle l'est à mes yeux.
Je sais.
Depuis la nuit de l'exhumation, tu n'as pas été le seul à réfléchir intensément.
Pour ne pas avoir à regarder Nietzsche, Richard fit mine de s'intéresser à une partie du muret légèrement effritée. Et qu'as-tu conclu?
Pour commencer, alors que je te regardais marcher sur un chemin de ronde, une idée étrange m'est venue. Je n'en avais pas encore parlé parce que je ne suis pas sûr que ce soit l'explication de ce qui t'arrive. De plus, si c'était le cas, nous serions encore plus dans la mouise. Bref, sans être sûr de moi, j'ai de bonnes raisons de le croire. L'ennui, c'est que la preuve a disparu, ce qui me prive de presque tous mes arguments. Pourtant, je crois qu'il est temps d'aborder le sujet.
Une preuve? Et elle aurait disparu, selon toi?
Oui. Il s'agit du carreau d'arbalète. J'ai toujours dit que... ton rêve était lié à la blessure. Mais je n'avais pas envisagé cette façon-là.
Que veux-tu dire?
As-tu vu qui t'a tiré dessus? L'homme qui tenait l'arbalète?
Richard se repassa mentalement les événements de cette terrible matinée. Les cris d'un loup, un mouvement dans les broussailles, des soldats tout autour de lui. Il avait dû se battre contre des adversaires qui venaient de toutes les directions. Du coin de l'œil, il avait aperçu des archers et quelques arbalétriers. Une configuration classique pour un détachement de l'ordre. Non, je ne saurais dire qui m'a tiré dessus, mais pourquoi cette question ? Nietzsche sonda un long moment le regard de Richard. Ses yeux à la sagesse sans âge ressemblaient à ceux d'autres magiciennes que le sorcier avait connues. Anna, Verna, Adi, Chota et Callan.
La pointe barbelée m'empêchait d'extraire le projectile à temps pour te sauver la vie. Soumise à une terrible pression, je n'ai jamais pensé à analyser le carreau avant d'utiliser la magie soustractive pour le détruire.
L'analyser pour trouver quoi?
Un sortilège. Un sort très simple mais destructeur.
Richard devina qu'il n'allait pas aimer l'idée que Nietzsche avait derrière la tête. Quel genre de sort?
Un sort de séduction.
Pardon?
Ça marche un peu comme un filtre d'amour. Hein? Oui. En gros, c'est comparable en tout cas. Un sort de séduction force le sujet à tomber amoureux d'une personne bien précise. Jusque-là, je pensais qu'il fallait choisir une personne réelle. Mais pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas avec une cible imaginaire? Le résultat serait le même, non? Cela dit, tomber amoureux est une expression bien trop anodine. Être obsédé par serait plus proche de la vérité. En fait, la victime de ce sortilège ne peut plus penser qu'à l'objet de sa flamme. En général, ce sort se transmet de magicienne en magicienne et très souvent de mère en fille. Tu sais, nous n'en sommes pas très fiers, d'autant que nous l'utilisons la plupart du temps pour qu'un homme soit obsédé par nous. Certaines magiciennes ne peuvent pas s'empêcher de jouer ainsi avec les sentiments des hommes. Au palais des prophètes, recourir à cette magie était interdit et sévèrement puni, comme s'il s'agissait d'un viol psychique. La coupable pouvait être bannie ou pendue haut et court. Certaines sœurs furent accusées de ce crime puis condamnées. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le dernier cas remonte à une cinquantaine d'années. Le tribunal hésitait entre bannir et faire exécuter une novice appelée Valdera. Finalement, la dame abbesse a tranché en faveur du bannissement. Les sœurs captives de Jagang sont sûrement capables de lancer ce sort. L'ajouter à un carreau, ou sans doute à plusieurs, pouvait sembler une bonne idée. Si le projectile ne te tuait pas, il t'ensorcelait.
Il n'y a aucun sortilège, coupa Richard, de moins en moins aimable. Nietzsche ne tint aucun compte de son intervention.
Voilà qui expliquerait tout. La victime d'un sort de séduction ne s'aperçoit de rien, elle est manipulée du début à la fin.
Pour se calmer, Richard se passa une main dans les cheveux.
Pourquoi faire une chose pareille?
Jagang veut me tuer, et il a même créé un monstre pour parvenir à ses fins. Alors pourquoi perdrait-il son temps en enfantillage?
Parce que les bénéfices seraient énormes pour l'empereur. Tu y perdrais ta crédibilité, et tu scierais toi-même la branche sur laquelle tu es assis.
Désolé, mais je ne te suis pas très bien.
Quand un chef devient obsédé par une femme, ceux qui le suivent finissent par se dire qu'il a un problème, qu'il devient fou si tu préfères. Si tes hommes et ton peuple doutaient de toi, cela nuirait à notre cause. Les victimes de ce sortilège deviennent des morts-vivants qui n'accordent plus d'importance à rien. Si j'ai raison, c'est cela le mal qui te ronge. Tu comprends pourquoi utiliser cette magie était considéré comme un crime au palais? Ce sort peut ruiner la vie d'un homme. Pour un dirigeant de ta stature, c'est l'assurance de tout perdre, la confiance de ses sujets, l'estime de soi-même, le goût d'agir.
Et bien entendu, la victime ne devait s'apercevoir de rien. Dans ce contexte, Richard ne devait plus s'étonner que ses amis le regardent comme s'il avait perdu l'esprit. Pourquoi mes sujets ne me feraient plus confiance? Ce que je disais avant d'être fou n'est pas nécessairement faux. La vérité reste la vérité, même quand elle est énoncée par quelqu'un qu'on ne respecte pas.
Tu as raison, mais peu de gens sont aussi lucides que toi.
C'est bien possible, hélas.
N'étant pas homme à compter sur une seule tactique, Jagang t'a également envoyé la bête. Pour se débarrasser de Richard Rall, tu sais qu'il ne reculerait devant rien.
Richard approuvait cette partie du raisonnement. Le reste lui semblait aberrant.
Jagang ne sait même pas où je suis. Les soldats me sont tombés dessus alors qu'ils fouillaient tout bêtement la forêt afin de garantir la sécurité d'un convoi de vivres.
L'empereur sait que tu es à l'origine de la révolution, en Alterrang. Il peut avoir ordonné à ses arbalétriers de porter des carreaux ensorcelés à la ceinture et de les utiliser s'il te voyait.
Richard dut admettre que Nietzsche ne l'avait pas trompé. Elle avait sacrément réfléchi et trouvé une réponse à tout.
« Si c'est ça, magicienne, dit le sorcier, touche-moi et désenvoûte-moi. Rends-moi ma santé mentale. Si tu crois vraiment que la magie me ronge le cerveau, chasse-la de ma tête pour que nous en finissions vraiment avec ça. »
Nietzsche tourna la tête et regarda un moment l'entrée dévastée.
« Pour ça, il me faudrait le carreau, et il n'existe plus. Désolé, mon ami. Je n'aurais jamais pensé à vérifier le projectile de cette façon. J'étais pressé de te sauver la vie, mais j'aurais dû réfléchir quand même.
Tu n'as rien fait de travers. En fait, tu m'as sauvé la vie.
Tu crois vraiment? Ne t'ai-je pas plutôt condamné à une existence de zombie?
Sûrement pas. Tu m'aides et tu me respectes, même si tu doutes de ma santé psychique. Comme tu l'as dit aussi, la preuve de la mort de Kalan ne suffit pas.
Moi, j'affirme que ce cercueil n'aurait pas dû être là. À mes yeux, il nous signale que quelque chose de très grave est en cours. À part moi, personne ne se souvient de Kalan. Nul ne sait qu'elle est censée reposer ici. Mais j'ai la certitude maintenant de ne pas pourchasser une hallucination. Tu sautes trop vite à la conclusion. Richard, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas continuer ainsi. Tu dois en finir ou tenter quelque chose de nouveau. As-tu un plan?
Non. Et j'avoue être à court d'idées. Mais Kalan est trop précieuse pour que je l'abandonne.
Et tu crois pouvoir jouer les chevaliers errants jusqu'à la fin des temps? Quand l'ordre sera là, tu devras changer d'avis. Je déteste qu'Anna se mêle de ma vie, comme toi exactement, mais elle ne fait pas ça pour nous ennuyer. C'est une véritable combattante de la liberté qui lutte pour sauver des innocents.
Richard ravala péniblement la boule qui s'était formée dans sa gorge.
J'ai besoin de réfléchir. Il faut que j'étudie certains livres que nous avons découverts. Je dois comprendre ce qui se passe et décider comment je vais continuer.
Et si tu ne trouves pas de réponse?
Richard baissa la tête pour sonder le puits. Un excellent moyen de dissimuler ses larmes.
S'il te plaît, ne me harcèle pas.
Si seulement il avait su qui combattre. Mais comment affronter les ombres qui rôdaient dans son esprit?
D'accord, dit Nietzsche. D'accord, je vais te laisser du temps.